Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Visage du Monde. Petite chronique scientifico-culturo-poétique. Bienvenue dans la première émission de cette troisième saison du Visage du Monde. Aujourd'hui, je vous emmène en Sibérie grâce à un écrivain dont j'admire les talents, Sylvain Tesson. J'ai envie de partager avec vous une nouvelle du recueil qui s'intitule « Une vie à coucher dehors » que vous pouvez trouver en poche chez Folio. Le lac. J-20. La cabane fumée sur la rive du lac. Piotr ouvrit les yeux à 9h du matin. En novembre, dans la forêt, on n'est pas pressé de se lever. Entre un lit bien chaud et le sous-bois glacé, le corps n'hésite pas. Les fonctions internes maintiennent le corps dans le sommeil le plus longtemps possible. C'est la variante psychologique de l'hibernation. Ceux qui ont dormi près d'un poêle dans l'hiver sibérien comprendront. Il restait 20 jours à tenir. Au regard des 14 000 qu'il avait déjà passés ici, l'entreprise ne lui paraissait pas difficile. Mais en se réveillant, Piotr savait que 20 jours d'impatience lui pèseraient davantage que 40 ans de résignation. Coup d'œil dehors. Cristaux de glace sur le carreau, ciel d'acier, forêt immobile. Pas un souffle. Le thermomètre cloué sur le sapin devant la cabane marquait moins 27 degrés. La première manifestation du froid est le silence. Piotr se leva et nota précautionneusement la date. 3 novembre 1995. Il tenait à son calendrier comme à la vie. Et d'une certaine manière, sa vie était liée à la bonne tenue de son calendrier. Chaque matin, avant d'enfourner une bûche dans le poêle, il notait la date du jour d'une minuscule écriture. C'était un rituel. Une journée dans la forêt en est composée. De manie en habitude, on abat les heures qui mènent à la nuit. Dans les bois, la discipline personnelle est aussi nécessaire qu'un couteau. Connaître la date est une manifestation de dignité. En prison, les types qui ne tiennent pas le décompte des jours virent cingler plus vite que les autres. La première ligne du cahier indiquait le 29 février 1956. Plus que 20 jours donc. Il fallait maintenir les règles, redoubler de concentration. La mort vous fauche parfois sur les sentes les moins périlleuses. Comme il avait presque épuisé sa réserve, il fendit du bois pour 20 jours. Un tronc y passa. Il débitait le sapin, vêtu de deux chemises en laine enfilées l'une sur l'autre. Deux chemises suffisent lorsqu'on travaille par moins 27 degrés. Le froid n'affecte que les paresseux. Au-delà de moins 30 degrés, il fallait passer la veste. Dans la vie, il y a des seuils. Il rentra pour le thé. Il cura la brique de feuilles séchées au poignard et l'eau bouillante fit gonfler les poissons dans le quart en métal. En se brûlant les lèvres, il feuilleta le livre posé sur la table. Des livres, il en possédait 8. 6 pour les œuvres d'Alexandre Dumas, parues aux éditions du Progrès, un album illustré sur les armes de chasse russes et un exemplaire relié de la première traduction en russe du Pan de Knut Hamsun. L'exemplaire datait d'avant la Révolution. Il ne se souvenait plus comment le roman avait pu lui arriver dans les mains et ne cherchait pas à imaginer pourquoi il avait survécu aux tempêtes de 1917. Piotr aimait cette phrase « Car j'appartiens aux forêts et à la solitude ». Il l'avait gravé au couteau sur le linteau de la porte. Ainsi, les rares personnes qui lui faisaient le frais d'une visite étaient prévenues. Par le carreau, il regarda le lac. Un tissu tendu entre les rives. Il se souvint d'un banquet auquel il avait assisté quand il avait 20 ans, juste après la guerre. C'était aux messes des officiers. Il faisait le service. La nappe était la même, immaculée, impeccablement lisse. Sauf qu'ici, à la table du lac, les convives étaient rares et ne s'attardaient pas. Le soir, en allant chercher de l'eau, il vit les traces d'ours sur le sable. J-19. Dans la chaleur des couvertures, il pensait aux traces de la veille. Les fauves ne s'approchent pas des cabanes. À cette saison, la nature se prépare à l'hiver, les ours à leur nuit. La bête avait erré un long moment sur la plage. Le sable était moucheté d'empreintes. Peut-être avait-elle senti l'odeur du jambon que Pavel avait apporté du bourg la semaine d'avant. Et le chien qui n'avait pas grogné. Il arrive que les chiens se prennent d'amitié pour les ours. Au lieu d'aboyer à l'approche de la bête, ils se pâment, se fourrent dans ses poils et lui lèchent les replis. Vers 11h, vrombissement. Un canot passait dans le lointain, sans doute un pêcheur. Depuis 40 ans, Piotr avait pris l'habitude de se poster sur le seuil au moindre bruit de moteur. Quoi qu'il fût en train de faire, il s'interrompait pour scruter. La vie est trop sobre sous le couvert des bois pour laisser passer la distraction d'une petite coque labourant au loin la surface des eaux. Autour du lac, chacun connaissait Piotr. On le surnommait le vieux de la forêt. Personne ne se rappelait quand il s'était installé dans les bois. Le canot ne fit pas de détour. Pourtant, les pêcheurs se fendaient souvent d'une visite à l'ermite. On lui apportait des conserves, des nouvelles, des cartouches et des piles pour la radio. En échange, Piotr était prodigue de la viande qu'il chassait, de ses poissons salés, des airelles dont il avait passé l'été à bourrer des bocaux, de la chaleur de son poêle. Quand il y avait des tempêtes, on se réfugiait dans sa baie. Les pilotes y trouvaient toujours à boire et à manger, même si le vent les clouait 3 jours durant. L'année du grand incendie, les gardes forestiers étaient restés chez lui 2 semaines pour surveiller la progression des feux. Il les avait nourris de bon cœur. Lorsqu'il partait chasser dans la forêt, il ne fermait pas sa porte, au cas où quelqu'un se serait pointé. Il ne craignait pas les voleurs. Dans la taïga, pas de place pour les parasites. De tous les visiteurs, Pavel était le plus fidèle. Pêcheur au bourg de Petrona, à 5 jours de marche ou 5 heures en canot, il venait de temps en temps visiter son ami du fond des bois. Piotr lui passait commande d'un outil ou de provisions. Il pouvait s'écouler 2 mois avant la livraison. « Je ne sais pas quand je pourrai revenir, » disait Pavel. « Je m'en fous, je ne suis pas pressé, » disait Piotr. « Comment fais-tu pour tenir le coup ?»« Ce sont les 35 premières années les plus difficiles. Après, on s'habitue. » J-18. La journée était belle. Le soleil éclairait la glaçure des versants. Piotr avait assisté avec piété à des milliers de couchers de soleil. Si le paradis est réservé à ceux qui ont contemplé la beauté du monde, il était sûr de sa place. Si ce n'est pas le cas, il était sûr de l'enfer. Par les doubles carreaux, Piotr embrassait une vue de peintre. La forêt de pins noirs mourait dans le lac à 100 mètres de la cabane. Par une trouée, on voyait le croissant de la grève de galets filer vers le nord, mangé de plaques sableuses. L'immense plaine d'eau se fondait dans les brumes. Une herse de montagnes défendait l'horizon. L'été, des touristes faisaient le tour du lac dans de petits canots à moteur. Ils mettaient 8 jours à venir à bout des 500 km de rive. Quand ils découvraient l'anse de Piotr, la cabane dans la clairière, les rochers du rivage défendant la forêt, ils voulaient y camper. Piotr les accueillait, jouait avec les enfants. Il leur apprenait à trouver des myrtilles. Le lendemain, les petits pleuraient d'avoir à le quitter. Le vieux se liait avec les mômes aussi vite qu'avec les chiens. 3 jours auparavant, il avait tiré un élan. Le dépecé prit une partie de la matinée. À midi, il rentra pour le thé. Il contempla le lac à travers la fumée de l'eau bouillante. Le ciel et l'eau formaient les 2 pans de miroirs inclinés. Ils convergeaient vers l'horizon où les crêtes les empêchaient de se rejoindre. 18 jours. Se pouvait-il que les parenthèses de la vie se ferment si facilement? Que faudrait-il faire? Brûler la cabane? Retourner y vivre? S'installer au bourg? Saurait-il se réhabituer aux autres? Il vit l'ours le soir en allant chercher du bois. La bête rôdait au bord de l'eau. Le chien n'avait pas aboyé. Piotr jura et courut chercher le fusil. L'ours avait disparu quand il sortit sur le seuil, l'arme au poing. J-17. Il coupa du bois, cloua un bardeau qui se décrochait, aiguisa ses outils, lut un passage de Hamsun, ravauda son filet, puisa l'eau du lac, recousit un pan de son sac et se roula une clope dans le journal du trimestre dernier. Ainsi de sa vie depuis 4 décennies, une succession d'actes vitaux. Bientôt il serait libéré et le soleil de la Sibérie éclairerait le monde d'une couleur plus joyeuse. Aujourd'hui, pas d'ours. Il passa quand même la journée le flingue en bandoulière. J-16. Le thermomètre était encore descendu. Des oies à col noir passèrent en formation. La première neige tomba vers 10 heures et à midi, elle était constellée de traces d'ours. Ce salaud-là aurait dû être en train de se chercher une tanière pour l'hiver. « Tu sens peut-être que l'occupant se tire bientôt d'ici, » dit Piotr en regardant l'orée. Il fallait qu'il répare le piège. J-15. Une journée entière dans la cabane, car dehors, un vent glacé. J-14. Dans la nuit, il fit un cauchemar. Il était dans une cellule de la prison de Tomsk. Une lucarne de verre dépoli filtrait une lumière humide. Une araignée vivait dans les jointures des murs. La porte s'ouvrait, un officier apparaissait et crachait. « Tu as pris 40 ans !» Piotr se réveillait au moment où la porte claquait. Il passa la journée à réparer le piège qui s'était faussé 3 ans auparavant. Cet automne-là, Piotr était parti chasser quelques jours dans la taïga. Près de la cabane, un ours de 250 kilos s'était pris la patte dans le piège et s'était tellement débattu qu'il avait tordu l'un des ressorts du mécanisme avant de mourir d'épuisement. Piotr avait remisé l'appareil et depuis n'avait plus tiré les ours qu'au fusil. Mais cet animal-là avait circonvenu le chien. Sa manière de rôder comme un tchétchène, sa façon d'y revenir sans cesse, les entrelacs d'empreintes sur le sable des grèves, il fomentait un mauvais coup. À quelques jours du dénouement, Piotr ne pouvait rien laisser au hasard. J-13. Le temps s'était adouci. Aux premières lueurs, Piotr posa ses filets au pied d'un talus sablonneux. Il fallait une demi-heure pour atteindre l'endroit à la rame. L'effort valait la peine car les poissons ne manquaient pas. La journée était dangereuse, elle portait le chiffre 13. Ne prendre aucun risque. Assis sur la planche de nage, il alluma une cigarette avec la page des programmes de télévision d'un quotidien de juillet. De la moufle, il caressa l'aluminium cabossé de la coque. Avec le fusil, le couteau, les livres et ses jumelles, la barque était un objet ami. Elle lui prodiguait loyalement ses services depuis 40 ans. Il se sentait bien dans ses flancs et s'entretenait doucement avec elle. La réclusion dans les bois lui avait donné une étrange conception du monde. Il croyait les objets animés de forces incorporelles. Les éléments chargés de signes, le monde matériel fondé sur un ordre mystérieux, les animaux et les plantes dépositaires de secrets immémoriaux. Dans la partition de son univers, le moindre événement, le vol d'un oiseau, le froissement d'un serpent ou le rythme des vagues, était un signal que le cosmos envoyait à la surface de la nature, à destination des âmes initiées. Les hommes, eux, et même ce sacré Pavel, n'étaient que des automates, tristes esclaves de leurs passions, abrutis de désirs et prisonniers de leurs codes. Des machines avec lesquelles il fallait bien converser de temps en temps pour que ne s'atrophient pas les maxillaires. Dans sa vie, il avait davantage causé avec sa barque qu'avec ses semblables. Il souqua vers la cabane. Il reviendrait le soir remonter le filet. Il se souvint de son installation dans la forêt. L'année 1956. Khrouchtchev à Moscou, le 20e congrès, et lui, ici, à 2000 km de Tomsk. Il se rappela les longues négociations avec les gardes-chasse pour obtenir le droit d'occuper la cabane, les réponses inventées aux questions posées, les faux papiers produits devant le chef de la réserve, puis les mois passés à restaurer la bicoque et les allers-retours en canot à moteur pour convoyer tout le nécessaire. Le poêle ronflait, l'eau chauffait dessus, le chien dormait à côté. La hache était plantée dans le billot de fendage, le couteau sur le chambranle de la porte, le fusil posé sur le montant. Piotr était allongé sur sa couche. Il fixait des yeux les rondins du plafond. En ce moment précis, le filet de pêche flottait dans l'eau glacée et les poissons venaient y mourir. Leur chair lui donnerait l'énergie de continuer à vivre. Tout était en équilibre. La vie en cabane est une réduction de l'univers. Mais d'un univers qui ne connaîtrait ni expansion, ni chaos. Seulement l'ordre. Il se leva pour jeter une bûche dans le poêle. À chaque fois qu'il en enfournait une, Piotr prenait soin de l'inspecter. Il ne voulait pas risquer de griller des insectes. Il cognait le bois pour déloger les xylophages avant de l'envoyer en enfer. Dehors, lorsqu'il écrasait un capricorne en coupant des rondins ou butait par hasard dans une fourmilière, il se sentait mortifié. Tuer un élan, dépecer un ours ou piéger une martre l'émouvait moins. Mais les insectes, ces petits bijoux articulés, dans leur livrée vernie, avec leurs dentelles, étaient d'une telle délicatesse. Parfois, il les emprisonnait sous un verre et les observait pendant des heures avant de les relâcher sans leur faire aucun mal. C'est pour cela qu'il les épargnait, en remerciement de leur beauté. Il y a 40 ans, à Tomsk, Piotr avait tué un homme.
Jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le long du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas pourtant, je n'y suis jamais allée. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi, tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Première page d'un journal brésilien, j'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas pourtant, je n'y suis jamais allée.
C'était la Rua Madureira de Pauline Croz. Continuons notre histoire. J-12. Piotr avait un chien pour n'être pas seul, un fusil pour n'avoir pas faim, une hache pour n'avoir pas froid. Ce jour-là, il caressa le premier, graissa le second, aiguisa la troisième. La vie n'est pas compliquée quand on a tiré le rideau de la forêt sur toute ambition. J-11. Pendant un moment, il avait hésité à tenir son journal. Mais que se passerait-il ici pendant tant d'années qui mérita qu'on le consigne? Les ermites qui composent des œuvres ont un feu qui leur dévore le cœur. Piotr n'avait aucun feu en lui. C'est tout juste s'il sentait qu'il lui battait un cœur. Lorsqu'il avait tué l'officier, il n'avait rien éprouvé. C'était un crime sans mobile, un acte gratuit. Pendant la guerre, Piotr avait servi sous les ordres du lieutenant Glanov. Il avait fêté ses 20 ans sur le front de Poméranie, combattu en mars 1945 dans la baie de Stettin, aux côtés des soldats polonais. 10 ans plus tard, il avait croisé le lieutenant par hasard, dans une rue près de l'université. Ils étaient allés chercher 2 bouteilles et s'étaient enivrés chez l'officier. À minuit, Piotr était allé chercher une 3e bouteille au kiosque. Il l'avait vidée encore plus vite que les 2 premières. L'appartement était surchauffé. Piotr supportait mal l'odeur de saucisson qui flottait. Le lieutenant parlait de la Djigouli qu'il venait d'acquérir, de ses 2 filles admises à l'université d'électromécanique d'Omsk, de la datcha avec potager attenant et de ses vacances à Leningrad. Piotr n'avait rien à répondre, car il vivait depuis la fin de la guerre dans l'appartement de sa mère, dormait dans la cuisine ou en cellule de dégrisement, et n'arrivait pas à rester plus de 3 jours d'affilée dans les chantiers de cantonniers où on l'employait par pitié. Le lieutenant continuait l'inventaire du contentement de soi. À 3 reprises, sa femme était sortie de la chambre à coucher pour engueuler son homme et exiger que Piotr débarrassât le plancher. Elle était blonde et grasse en son peignoir. Piotr avait saisi la bouteille et lui avait lancé au visage. La femme s'était écroulée. Le lieutenant avait décoché une droite molle dans la mâchoire de Piotr. Ils avaient roulé sur le sol. Piotr avait sorti son couteau et avait saigné son officier comme un brochet, de haut en bas, dans le mou du ventre, en remontant consciencieusement jusqu'au plexus. Puis, il avait essuyé l'acier sur le peignoir de l'épouse évanouie et était sorti dans la rue avec le fond de la bouteille. J-10. Insomnie. L'approche de la date lui tendait les nerfs. Dans 5 jours, il partirait, il marcherait 5 jours et tout serait fini, tout pourrait commencer. Il alluma la radio et réussit à capter la station de Moscou. Une canicule avait fait 2000 morts à Calcutta. Un envoyé spécial décrivait la situation. On l'entendait à peine à cause du bruit de fond. Piotr se redressa sur le lit. Par la fenêtre, la lune dans le lac. Le froid, le silence et la solitude sont les 3 produits de luxe du monde contemporain. À l'aube, les traces d'ours parsemaient la neige devant le seuil de la cabane. La bête ne se montra pas de la journée. Au crépuscule, Piotr fixa le piège au pied d'un cèdre, en bordure de la rive. Il l'appâta avec les abats de l'élan. J-9. Les bouleaux perdaient leurs feuilles. Certains étaient même déjà dénudés. De loin, l'entrelac de leurs branches vernies faisait une dentelle mauve. Piotr ne sortit pas de la cabane. Dehors, la tempête. Les rafales emportaient les écheveaux de neige. Le proie avait lâché ses cheveux dans le vent. Cette nuit, Piotr avait cru entendre gratter à la porte. J-8. L'autre soir, dans les filets, la prise avait été bonne. Un plein banc d'omble à la chair grasse. Il les vida et les sala. Il y en avait suffisamment pour les jours restants. De quoi tenir jusqu'au départ et pour les 5 jours de marche. Le miracle aurait été qu'un canot à moteur passe le jour où il fallait partir. Mais il ne croyait pas aux aubaines. Il venait de traverser une existence qui en avait singulièrement manqué. Sa chance avait été de découvrir la cabane. Après le meurtre, il s'était laissé guider par l'inspiration. Il s'était rendu à la gare de triage et était monté dans le wagon d'un train chargé de câbles de cuivre à destination d'une ville industrielle des bords de l'Amour. Le cuivre n'isole pas très bien du froid. Le voyage avait duré 48 heures. Il avait trouvé un peu de chaleur dans sa conversation avec un compagnon d'infortune, déjà pelotonné dans un coin. C'était un de ces mystiques russes, un vagabond pas lavé depuis des années qui grillait le dur et sillonnait le pays en priant secrètement. 2 jours plus tard, l'assassin en cavale était descendu en pleine nuit dans une station du bord du lac, où le train marquait une halte technique. Il jugeait suffisant 2000 kilomètres entre son crime et lui. Il n'avait pas voulu réveiller le pèlerin endormi parce qu'il avait préféré lui voler ses papiers. Le pauvre R s'appelait Piotr. Le meurtrier lui emprunta son identité. À la réserve naturelle, il avait trouvé un emploi de garde forestier. On ne lui avait pas posé trop de problèmes. C'était une veine de trouver un volontaire pour tenir cette cabane à 5 jours de marche de toute vie humaine. Piotr s'y était installé pour veiller sur la beauté d'un horizon vide. 20 ans plus tard, les restrictions de Moscou avaient précipité la fermeture de bon nombre de réserves sur le territoire russe. Piotr avait été oublié, hunié sans capitaine, échoué sur les bords de son lac. J-7. -20 au thermomètre, air cristallin. On distinguait parfaitement la rive opposée à 50 kilomètres. Des coulées de forêt dévalaient les talus rocailleux jusqu'à la grève. Le lac était agité. Le ressac hachait la ligne de galets. Sur la grève, pas de nouvelles traces. L'ours avait peut-être déserté les lieux. 7 jours, dit Piotr. Et afin de calmer la fièvre, il se servit un verre d'alcool de baie. Le bon jus lui râpa la trachée et diffusa dans son ventre une grasse chaleur. Il leva le second verre devant la fenêtre. Au lac ! Il se réveilla en pleine nuit. Il s'était endormi sur la table. La bouteille était vide. Il crut qu'un 3 mois fantôme aux voiles en haillons voguait au-dessus du lac. C'était la lune qui éclairait la charpie des nuages. J-6. Au réveil, une vision. Un vol d'éder dans les lueurs naissantes. L'escadrille fusait vers le sud. Avait-elle seulement conscience de sa splendeur? Demain, dès l'aube. Il connaissait Victor Hugo. Il l'avait étudié en classe. Dans les écoles de l'Union soviétique, on vénérait le grand poète socialiste français. Le départ était pour le lendemain. Il prépara son sac. 5 jours de poisson salé, la tente, le fusil, la couverture, la hache, les cartouches, les jumelles, les allumettes. Il marcherait vers le sud, le lac à main droite. Il suivrait le sentier côtier ouvert par le passage des animaux, légèrement en retrait de la rive, juste derrière le rideau des arbres. Le tapis de mousse et d'humus rendait la marche élastique. Il imaginait son arrivée au bourg. Il irait passer une nuit chez Pavel. En 40 ans, Piotr ne lui avait rendu visite que deux fois. Le jour suivant, il se présenterait au poste de la milice et demanderait à voir l'inspecteur. Le chef lui dirait « Piotr, tu es sorti de ton trou ?» Et il lui répondrait par cette phrase qu'il moulait dans son esprit depuis 4 décennies et qui lui rendrait son identité, solderait ses comptes devant le tribunal des hommes et le rétablirait dans ses droits. « Inspecteur, je ne m'appelle pas Piotr. Je suis Ivan Vassilievitch Golovinov. Je me suis rendu coupable du meurtre de l'officier Glanov à Tomsk en 1956. 40 ans plus tard, je viens solliciter la grâce pour ma faute et réclamer la prescription conformément aux dispositions du droit russe. Je demande le versement de ma pension d'ancien combattant à titre rétroactif. En Russie, la société mettait 40 ans à passer l'éponge sur vos crimes. C'était long, mais ensuite c'était plus rentable que l'absolution des péchés sous les bulbes orthodoxes. » J-5. Le soleil décocha son premier trait par-dessus les chaînes de l'Est. Piotr marchait déjà vers le sud. Le chien caracolait à 30 mètres devant lui, furetant dans les vieilles souches. J-4. La nuit avait été bonne auprès du feu. La journée fut longue au bord du lac. La nuit serait bonne auprès du feu. J-3. Deux cerfs, un éder, un élan et au moins 3 écureuils au tableau de chasse des rencontres. Dans 3 jours, il aurait à nouveau le droit d'être un homme parmi ses semblables. J-2. Les cèdres nains faisaient obstacle. Leurs branches barraient le chemin. Il fallait ramper dans les tunnels ouverts par le passage des bêtes. Pour éviter l'obstacle, il gagnait la rive. Les chevilles souffraient sur les galets ronds. Chaque pas était un triomphe. Il revenait sur le chemin obstrué de végétation. Il passait la journée à osciller entre la grève et la forêt. La vie, pour certains, s'écoule ainsi, dans la conviction que le bonheur se trouve ailleurs. Lui, au moins, avait évité cet écueil. L'érémitisme l'avait vacciné contre l'insatisfaction. J-1. Nuit coupante. Le thermomètre était tombé sous moins 25. Au matin, il fallait 2 heures de marche pour que le sang huile à nouveau les rouages. À 3 heures de l'après-midi, la forêt s'ouvrit sur les fumées du bourg. 4 jours et demi. Il avait fait vite. La sente devenait un chemin, puis une piste, puis une route de goudron. Les routes connaissent le même destin que les rivières. Elles enflent et se jettent dans plus gros qu'elles. Il s'arrêta et s'assit contre un cèdre. 40 années de réclusion et 100 kilomètres de marche l'avaient mené à la porte de la ville, au seuil d'une nouvelle vie. Les formalités prirent plus de temps qu'il ne l'avait imaginé. Le dossier se perdit jusque dans les labyrinthes moscovites. L'inspecteur aimait bien Piotr. Il continua d'aimer Ivan. Il prit en main la direction de l'affaire, s'enquit lui-même de l'avancée des choses et insulta le préposé de Moscou qui lui répondit au téléphone pour la 4e fois que le processus était en cours. Au bourg, la nouvelle fit grand bruit. Elle suscita des réactions partagées. 2 ou 3 connaissances de Piotr se détournèrent du vieux de la forêt. Les juges qui sommeillent au fond de certains cœurs n'ont pas besoin de grand-chose pour se réveiller. Piotr découvrit que les administrations accordent la prescription plus facilement que les hommes. Il essuya des insultes, croisa des poings levés. Un matin, il passa au large d'un groupe de pêcheurs et 2 ou 3 assassins fusèrent derrière son dos. Mais la majorité des habitants considéra que 40 ans de solitude avait lavé la faute et que le passé d'un homme ne compte pas. Pavel fut des fidèles. Les vraies amitiés se moquent de l'histoire ancienne. Piotr vivait chez Pavel, attendant que l'on lui rende ce qu'on lui devait. Un matin, les documents arrivèrent. L'inspecteur frappa à la porte de Pavel. Il sortit 3 verres de sa veste, une bouteille d'un demi-litre enveloppée dans un journal et servit les rasades. Il remit une enveloppe au vieux trappeur et leva son verre de vodka. « C'est ton absolution civile avec les compliments de l'administration. Pour l'absolution céleste, le gouvernement ne peut rien pour toi. Et pour la solde, il te faudra revenir dans 1 mois. » Ensuite, elle te sera versée ici, au bourg, chaque année. Ils burent. Désormais, Piotr s'appelait Ivan, était officiellement reconnu comme natif de Tomsk et vétéran de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, avec citation pour sa participation au combat de la baie de Stettin. Pavel encouragea son ami à s'installer au bourg. Il lui trouverait une petite maison avec un jardin. Le vieux solitaire aiderait à la pêche et finirait ainsi ses jours entouré de camarades. il retrouverait le goût du thé partagé et des toasts bruyants. Et quand il le désirerait, on se rendrait à la cabane pour y séjourner quelques jours, comme au vieux temps. L'urgence était de tirer un trait sur le passé, comme l'avait dit Pavel. Il fallait aller chercher le matériel à la cabane et le rapatrier au bourg. Le matin où ils partirent en canot, des nuages noirs assuraient le ciel. Des bancs de brume montaient à l'assaut des grèves et s'enroulaient à la cime des pins. Des canards s'envolaient en éventail. Leur sillage laissait la trace d'une main de géant à la surface de l'eau. Piotr Ivan, engourdi par le vrombissement, regardait défiler les pins sur la rive. Il avait vécu pendant 40 ans, aussi anonyme qu'eux. 5 heures de canot, puis la cabane. Un corbeau s'envola. Piotr Ivan suivit des yeux sa course vers le nord. « Ce sont mes souvenirs qui prennent le large, » dit-il. « Déjà nostalgique ?» dit Pavel. Pendant que Pavel amarrait le canot, Piotr Ivan se dirigea vers la cabane à pas pesants. La seule chose dont il eut le temps de se rendre compte lorsque l'ours le chargea, c'est que l'animal boitait. La bête le tua net d'un coup de patte sur le crâne et disparut dans les taillis. Pavel n'eut pas même le temps de saisir son fusil. Dans le ciel, des corbeaux croassèrent. On les avait dérangés. Les oiseaux étaient en train de partager la patte sanguinolente coincée entre 2 mâchoires d'acier que l'ours avait rongée pour se dégager du piège. La bête avait attendu pendant des jours le retour de l'homme. Le soir même, Pavel rapportait le corps de son ami au bourg. Dans la forêt, il y a une justice, mais c'est rarement celle des hommes. C'était Le Visage du Monde. Merci à Clément, à la technique. À bientôt.